Sanctification, épisode 4. Nous touchons à la fin de cette série sur des fausses conceptions concernant la sanctification. Nous avons vu précédemment que la sanctification n'est pas une expérience mystique unique, mais qu'elle est un processus progressif et continu dans la vie du chrétien. Peut-être que vous vous êtes déjà posé les questions: est-ce que je suis sauvé seulement si je progresse dans la sanctification? Ou alors, mon salut dépend-il de mon niveau de sainteté? L'erreur d'aujourd'hui et la dernière de cette série, c'est celle selon laquelle notre sanctification serait méritoire pour le salut. Nous n'allons pas le détailler, nous le rappelons encore et encore. La sanctification procède et débute par la seule grâce divine de la nouvelle naissance. Qu'ai-je mérité pour que Dieu me fasse naître de nouveau et commencer la sanctification? Rien du tout. La sanctification est une grâce et non pas un salaire. On me l'a donnée gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire alors par cette conception selon laquelle la sanctification serait méritoire? La sanctification n'est pas méritoire dans le sens où mon salut dépendrait de mon degré de sanctification. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens nés de nouveau rencontreront le Dieu vivant, ils ne vont pas subir un examen noté sur 20, auquel ceux ayant moins de 12 ou 13 seront éliminés et précipités en enfer. En fait, la Bible ne parle pas non plus d'un degré minimum de sanctification pour aller au ciel, et ne fait pas non plus la description d'un tel degré. La Bible parle plutôt de la sanctification comme d'une réalité présente ou d'une réalité absente, une réalité qui est durable ou d'une réalité factice et qui ne dure pas dans le temps. Finalement, les deux questions que je te pose sont les suivantes. Est-ce que la sanctification est là dans ta vie? Est-ce que tu progresses dans la foi? Et même une troisième question, est-ce que la lutte contre le péché, sous toutes ses formes, et la connaissance de Jésus-Christ, ce sont vraiment des sujets qui te préoccupent et auxquels tu te sens concerné? Si Dieu a réellement fait le don de la nouvelle naissance, il a fait le don de la foi salvatrice et de la connaissance du Jésus-Christ, et le don de la sanctification. Mais si tu ne te retrouves pas dans ces questions, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Peut-être pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, vous pensez à ce passage un peu énigmatique dans la deuxième lettre de Pierre au premier chapitre. Pierre nous dit: C'est pourquoi, frères, versets 10 et 11, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Sans trop nous étendre sur ce passage, nous constatons toutefois qu'il établit un lien entre la sanctification et l'assurance du salut. La question, c'est, il veut dire quoi à Pierre lorsqu'il dit d'affermir notre vocation et notre élection? En fait, il s'agit tout simplement de tout ce que Pierre a déjà énoncé dans les versets qui ont précédé. Je lis les versets 5 à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Si vous connaissez un peu votre Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a un parallèle très frappant, une ressemblance très frappante avec le fruit de l'Esprit que Paul énumère en Galates 5, versets 21 et 22. Je poursuis la lecture de 2 Pierre 1. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, et là il parle de la personne qui probablement a arrêté temporairement de progresser. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'image peut paraître un peu simpliste, mais voyez la vie chrétienne comme un enfant qui apprend à faire du vélo. D'ailleurs, on dit bien en français, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et donc la question de la vie chrétienne, ce n'est pas à quel degré sais-tu faire du vélo, mais sais-tu faire du vélo? L'enfant qui se sera amusé à faire 1 heure de vélo par jour aura sans aucun doute plus d'assurance que l'enfant qui aura appris avec son papa la veille même à pédaler sans utiliser les roues supplémentaires. N'empêche qu'ils savent tous les deux faire du vélo. Au fur et à mesure, ils apprennent plus ou moins vite à régler la hauteur de leur selle, à tenir le guidon, à changer les vitesses. Et ce sont des petits ajustements qui les aident à faire du vélo, à prendre plaisir et même à être affermis dans leur vélo, tout simplement. Et de la même manière, il y a des ajustements durant la sanctification qui nous aident à affermir notre assurance du salut. Et c'est ce dont a parlé l'apôtre Pierre. Nous ne sommes pas mieux sauvés ou plus méritants, mais nous sommes plus assurés de l'amour de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que, en ces choses-là, dans nos progrès, on voit que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même si cela prend du temps. Et du coup, la question se posera forcément, comment progresser? Si nous sommes en lutte avec un péché qui semble durable et particulièrement coriace pour nous, alors oui, c'est vrai qu'on va être découragé par moments, et si ce n'est déjà le cas. On ne va pas être en train de jubiler sur la grâce et l'amour de Dieu dans les instants ou les minutes ou les heures qui vont suivre. Pourquoi? Parce que le péché fait du mal à notre âme. Il attriste le Saint-Esprit et il cherche à ternir notre communion avec Dieu. Cependant, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est celui auquel je veux vraiment nous encourager. La plus grande source de progrès va venir de la prière continue sur la durée. Si l'on est en lutte avec un péché ou une situation préoccupante ou un trait de caractère, la première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui te tracasse? Et la deuxième qui suit immédiatement, à quel point pries-tu à ce sujet? À quel point pries-tu au sujet de ta sanctification? La prière n'est pas magique en elle-même. Et les questions que je pose ne visent pas à faire émerger davantage de culpabilité, mais plutôt à nous mettre en face de notre propre cœur. À quel point est-ce que tu veux compter sur Dieu, ton Sauveur, si il est ton Sauveur, pour progresser? À quel point est-ce que tu es enraciné dans les promesses, tu les connais, tu veux les vivre, tu les pries, pour demander à Dieu de te transformer. Si Dieu promet dans sa parole que ceux qui lui appartiennent grandiront en sainteté et que la sanctification fait partie de l'œuvre gracieuse de Dieu, alors nous devons tout simplement prier pour la sainteté. Notre Dieu sait donner de bonnes choses à ses enfants qui lui demandent avec foi. Battons-nous dans la prière, comme Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Sauf que la prière, ce n'est pas simplement bénis-moi, ne t'en va pas sans me bénir. Mais c'est bénis-moi de progrès dans la sanctification. Bénis-moi d'un plus grand amour pour Jésus-Christ. Bénis-moi d'une plus grosse haine contre le péché. Bénis-moi d'une volonté à vouloir me plonger dans ta parole et dans la prière, même lorsque ma chair et ma volonté ne le désirent pas. Bénis-moi d'être rempli de ton esprit. Bénis-moi de trouver mon plaisir en Christ et de voir le temps que je perds en faisant autre chose. Et très certainement, Dieu nous l'accordera, parce qu'il sait donner de bonnes choses, surtout si nous lui demandons avec foi. Lui qui nous a donné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas tout le reste en plus en retour? Et pour finir, je vous laisse un chant du groupe Écriture, Connaître Christ, avec les paroles, il me semble, du deuxième couplet. Je veux grandir en sainteté et à Jésus être conformé en communiant à ses souffrances et être changé par sa puissance. Amen.